One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Bonjour, c'est Jean Berthelot de l'Aglété, de l'équipe Podcastine. Bienvenue dans l'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest signé Podcastine. Podcastine, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Nous vous invitons pendant 8 jours à un voyage dans le passé de la région. À travers une série la plus longue jamais proposée par Podcastine, nous nous intéressons à l'histoire des républicains espagnols en Nouvelle-Aquitaine, à leur arrivée au moment de la guerre civile, à leurs conditions de vie souvent très difficiles, au soutien que la France leur a trop rarement apporté, aux traces qu'ils ont laissées dans la région aussi. Nous voulions rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui se sont battus contre le totalitarisme dans leur pays. Cette série s'appelle Aquitaine, soupir d'une Espagne républicaine. Elle est signée Marie Adias Valderrama. Épisode 7, à Bordeaux, balade dans la petite Espagne.
Aujourd'hui, je m'apprête à rencontrer Josefa Cornell. Lors de notre dernière interview, où elle m'a raconté comment elle a traversé les Pyrénées dans les bras de son père, elle m'a proposé de visiter ensemble les quartiers où elle a grandi. On s'est donc rendez-vous cours de la Marne, à quelques pas de l'appartement où elle a vécu pendant des mois comme une clandestine.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estáis?
Bien, perfecto.
Bon. Muy bien, bien.
J'avais envie de vous faire la bise.
Ah, mais bien sûr.
Voilà, c'est tellement magnifique d'être avec vous.
Pareillement pour moi.
Mais c'est bien.
Moi, ce que j'aimerais bien, Josefa, c'est que vous me montrez un peu votre quartier espagnol. Ici, du coup, c'était...
Vous connaissez pas trop ici ?
Je connais, mais aujourd'hui, ça a beaucoup changé.
Ah oui, complètement.
Complètement.
Complètement. Là, c'est ce que je disais à mon mari, là, quand je vois tous ces magasins-là qui sont ouverts, coiffures africaines, des trucs, ça n'existait pas.
Les quartiers ont changé, c'est clair. Mais il reste aujourd'hui un quartier d'émigration où des Africains et des Maghrébins ont installé leur commerce à côté des boutiques de réparation de téléphones, de bars et d'autres. Il y a toujours ces marchés des Capucins où l'on peut acheter des produits français, mais aussi italiens, asiatiques. Moi, je viens d'ailleurs chercher mes solives espagnoles.
Voilà, nous sommes au 85 cours de la Marne.
Oui, c'est ici que vous habitez.
Alors, c'est là que j'ai habité.
Oui.
Et notre chambre, c'était cette fenêtre-là.
Ok.
C'est ici que j'étais clandestine. Voilà. Cette porte qui était en bois à l'époque. Vous voyez, il y a un couloir. On peut voir là.
Oui.
Mais qui n'était pas carrelé comme ça. C'était, à l'époque, c'était avec des boiseries. Bon, c'était autrement. Vous voyez, au fond, il y a un escalier.
Oui.
Alors, ma tante, quand on arrivait, il n'y avait pas tous ces trucs-là. C'était... les serrures normales comme avant. Elle arrivait, elle ouvrait la clé, elle rentrait, elle montait l'escalier, elle arrivait au palier, et sur ce même palier que nous, mais vers le fond, habitaient les propriétaires. Et si la porte des propriétaires était fermée et qu'il n'y avait personne d'autre, ma tante toussait 3 fois. Et moi, avec ma grand-mère, je savais qu'on pouvait monter. Et donc, vite, vite, mais en courant, en faisant vite, vite. Et ma tante, elle gardait la porte de la chambre ouverte. Et moi, j'arrivais en courant, je m'engouffrais, on rentrait et on fermait toujours la porte à clé. La porte était toujours fermée à clé. Ce qui fait que si quelqu'un arrivait, il fallait que ma tante ouvre avec la clé. Ça prenait un peu de temps. Et je me mettais sous un rideau, il y avait une penderie avec un rideau, et là je me mettais sous le rideau, et puis j'attendais que la personne qui était venue reparte, et que la porte se referme, et que je puisse ressortir.
Avec Josefa, on arrive cours de l'Isère. J'ai appris, en lisant les livres espagnols en Aquitaine, que cette rue était anciennement connue comme la route de l'Espagne. Maria Santos Sainz, journaliste et professeure de l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine, et l'autrice avec François Guillemeteau de ses livres. Elle me parle un peu plus de la présence des Espagnols dans ces quartiers populaires. On va donc aux racines de cette ancienne petite Espagne. C'était la route qui menait vers l'Espagne. Dans le livre des voyages de Théophile Gautier, où il décrit Bordeaux avec des passages que j'ai cités dans mon livre, il raconte comment on entendait la langue de Cervantes à Bordeaux. Il décrit le cours de l'Isère, parce que c'était la route qui t'amenait si tu continuais tout droit vers l'Espagne. C'était une petite Espagne, un territoire des exilés. C'est à côté de la gare et c'était un quartier où il y avait des logements pas chers, parce que souvent ils étaient dans un état de précarité importante. Donc c'était des loyers modestes et adaptés pour des personnes qui finalement avaient tout perdu, qui n'avaient pas les moyens. Ils arrivaient là parfois dans la misère.
Ils avaient des moyens, qui vivaient dans la misère et qui arrivaient là. Et peu à peu, il y a ce barrio.
Et petit à petit, c'est devenu un quartier espagnol, dès le début du XXe siècle. Dans ce quartier existait le Solar espagnol, une vraie institution dans la ville. C'était géré par des jésuites, je crois, en tout cas, et religieux catholiques espagnols. Ils aidaient les gens à trouver un emploi, car il y avait comme une sorte de bourse du travail. Les dames de la ville venaient chercher leurs domestiques, et c'était un lieu de rencontre pour les Espagnols. Il y avait des messes, par exemple. Et ce lieu, qui était situé dans le quartier espagnol, était même inauguré par Alfonso XIII à la fin du XIXe siècle. Alfonso XIII, qui venait souvent à Bordeaux, il y a même une photo dans la salle à manger où on le voit. Photo que j'ai d'ailleurs publiée dans le livre d'Espagnol à Bordeaux. Donc c'était un quartier avec une certaine tradition où les familles ont pu s'établir grâce à ces petits prix.
C'était une tradition et donde s'establecieron y unas familias vinieron a otro, precios módicos de alquiler.
Je me souviens encore de la première fois où je suis venue à Bordeaux, en 1989. Il y avait encore beaucoup de boutiques et de bars espagnols, dont beaucoup ont fermé depuis. Les Deux Frères, par exemple, étaient une institution mythique. Il y avait un autre bar tenu par deux Andalous sur le cours de l'Isère, qui accueillait beaucoup d'Espagnols et où ils se réunissaient. Il y avait aussi une librairie. C'est-à-dire qu'il restait encore les vestiges de ce qui avait été dans ce quartier un territoire où tout le monde parlait espagnol. Les fêtes qu'ils organisaient, les danses. C'était un endroit où ils vivaient un peu isolés, avec peu de liens entre la population espagnole, composée d'exilés politiques et d'émigrants économiques qui se trouvaient là, tous ensemble. C'était comme une sorte d'île.
Bueno, pues yo en la época que he venido, ya te digo que había el resto de la ciudad, o de en todo caso, los sectores de más poder.
À l'époque où j'étais ici, le reste de la ville, en particulier les secteurs les plus puissants ou les plus riches, comme ceux liés au vin, par exemple.
Demás, digamos que no tenía ningún contacto, ni iban allí, ni es más, a mí me dijeron, por lo contrario, de contarlo como anécdota.
Disons qu'ils n'avaient aucun contact avec ce quartier, ils n'y allaient pas du tout. D'ailleurs, on m'a dit en anecdote, lorsque j'ai mentionné que j'allais faire un reportage, faites attention là où vous allez. Dans certains quartiers de la bourgeoisie bordelaise, ce n'étaient pas des endroits fréquentables. On me disait que l'on risquait de se faire poignarder, que c'était très dangereux. Lors de ma première visite dans ce quartier, j'ai eu l'impression d'aller presque dans le Bronx.
Et c'est pas ce que tu as vu?
Non, pas du tout. J'ai trouvé un quartier ouvrier, un quartier très vivant, où je voyais des gens qui avaient tout laissé derrière eux à cause de la guerre civile espagnole. Ils étaient là, c'était des gens très respectables et rien de tout cela.
Respectable y muy tal y nada de todo aquello. Antes se les veía, fíjate, me acuerdo cuántas veces he paseado y he ido a pasear a un parque que hay detrás de la mairie de Bordeaux, pues era un sitio.
Je me souviens du parc derrière la mairie de Bordeaux. C'était un lieu de rencontre où se trouvait un petit banc. J'y rencontrais toujours les mêmes républicains espagnols. Un ou deux étaient anarchistes, un autre avait écrit son livre. J'aimais bien aller les voir parfois lors de mes promenades solitaires en ville, j'aimais les rencontrer. C'était comme retrouver ses grands parents. Et pourtant, avec mes grands-parents, on n'était pas du même côté. Mais c'était une manière de me réconcilier avec moi-même, malgré tout.
De l'autre bande, non? Mais bon, c'était une manière aussi de réconcilier-me, non? À pesar de tout.
Le solar espagnol n'existait plus aujourd'hui tel qu'il était. mais sa paroisse espagnole résiste toujours au 124 rue du Bordier en tant qu'église catholique espagnole. On fait des messes en espagnol et beaucoup de Bordelais se rappellent avoir vu sur place des processions de la Semaine Sainte ou des baptêmes et mariages entre Espagnols. Au centre de l'ancien quartier espagnol, Josefa me signale des endroits qui n'existaient plus, comme Casa García, qui importait d'un Bordeaux des produits typiquement espagnols.
Ici, là, c'était...
On est aux trois cours de l'Isère.
Oui, c'était Casa García. Et Casa García, c'était une épicerie, mais c'était pas du tout comme ça maintenant. C'était, il y avait la devanture était en pierre. Et vous aviez une espèce de truc comme ça un peu qui avançait, mais pas en toile. C'était construit à l'époque. Et c'était une grande épicerie espagnole, Casa García. Et là devant, chose qui à Bordeaux à l'époque n'était pas courant, ils avaient des barriques avec des olives, ils avaient des sardines sèches, vous savez.
Oui.
Je ne sais pas si maintenant ça se fait encore, mais c'était quelque chose qui était en Espagne très courant. Et eux, ils avaient reconstruit une épicerie où les gens du quartier venaient acheter comme s'ils étaient en Espagne. Tous les commerçants du coin qui étaient ici faisaient partie de l'immigration des années 1920.
Après la Première Guerre mondiale.
Après la Première Guerre mondiale, où il y a eu une immigration très importante économique. Et c'est à ce moment-là que sont venues la sœur de ma grand-mère qui habitait avenue Thiers, le frère de ma grand-mère qui habitait rue Brémontier où nous allons aller. Eux étaient l'immigration de 1920.
Ces Espagnols, issus de la migration économique des années 20, on les appelait les Sudètes. Pour la plupart, beaucoup moins politisés que les exilés des années 30 et 40, ils sont pourtant aidés et accueillis leurs proches quand ces derniers ont fui la guerre d'Espagne. Mais Bordeaux est historiquement une ville d'accueil d'Espagnols. Elle a reçu des centaines de Juifs séfarades qui ont fui l'Espagne de roi catholique au XVe siècle. Dans les vieux cimetières juifs autour du cours de l'Isère, on trouve nombre de noms de familles provenant de la péninsule ibérique. Plus tard, au XIXe siècle, Bordeaux a reçu de nombreux réfugiés politiques, d'abord los afrancesados, les Espagnols qui avaient d'une certaine façon soutenu les invasions de l'armée de Napoléon, et puis les libérales, les progressistes qui ont fui les retours de l'absolutisme de Fernando VII. Les plus célèbres parmi eux, c'est les peintres Goya, mort à Bordeaux en 1828. Ces derniers groupes, plutôt bourgeois, s'étaient installés dans des quartiers plus aisés, dans les triangles d'or bordelais. On écoute l'hymne de Riego. Inspiré de la Marseillaise, l'hymne de Riego a été utilisé en 1820 pour motiver les troupes et puis adopté pendant 300 par les libéraux. C'est l'hymne repris plus tard pour la Première République espagnole, en fin de 19e siècle, et la Deuxième République, en 1931, qui s'est achevée avec les coups d'État et la guerre civile. María Santos Sainz parle aussi de cet exil espagnol, bourgeois et intellectuel, qui s'installe à Bordeaux au XIXe siècle.
C'est une haute société qui vient ici très bien préparée. Ils y passent plusieurs années et reviennent. Ils ne s'installent pas. Certains y restent pour toujours, mais la plupart d'entre eux, dès que l'amnistie pour les libéraux est décrétée en 1830, ils retournent en Espagne. C'était le cas de la femme, enfin de la compagne, pour le dire gentiment, la gouvernante, bien que nous sachions que c'était bien plus que ça, Leocadia. Elle était la compagne et l'accompagnatrice de Goya pendant ces dernières années. Elle était déjà une libérale et a été exilée ici en tant que libérale et elle a pu retourner en Espagne en 1830. Cet exil a donc été de courte durée. Ils sont restés ici pendant de nombreuses années. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait des librairies avec de nombreux livres en espagnol, des journaux, des lieux de
rencontres.
En d'autres termes, il y avait tout un itinéraire dans la ville, comme le café de Braulio où ils se réunissaient et prenaient un délicieux chocolat chaud avec un peu de cannelle, tout comme nous pouvions le faire à Madrid, à la célèbre chocolaterie San Rines. Il y avait donc ces lieux de rencontre au sein d'une communauté qui avait ses propres lieux de sociabilité. Ensuite, nous passons à d'autres exils ultérieurs qui nous mènent au XXe siècle. Une première émigration, dans ce cas économique, a eu lieu après la Première Guerre mondiale, car il y avait un besoin de main-d'œuvre. De nombreuses familles sont venues d'Espagne et se sont installées dans la région parce qu'elles avaient trouvé du travail et que les familles espagnoles étaient mieux rémunérées. Il faut savoir qu'à cette époque, pendant presque tout le XXe siècle, l'Espagne était un pays dit en voie de développement jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et il y avait de terribles situations de misère. De nombreuses personnes sont venues ici à la recherche d'une vie meilleure. Ceux qui sont arrivés après la Première Guerre mondiale se sont très bien intégrés et ont immédiatement réussi à avoir une vie un peu meilleure ici. Puis survient le grand drame et la grande tragédie de notre pays, à savoir la guerre civile espagnole et toutes ses conséquences en matière d'exil qui ont été très importantes.
Y con todas sus consecuencias del exilio que ahí, bueno, pues eso ha sido muy...
Ça doit être la prochaine, la rue Brémontier, ça doit être la prochaine. Alors ici, la rue La Fontaine, c'est une rue où vous n'aviez pratiquement que des Espagnols. La rue La Fontaine, c'était quelque chose qui était vraiment, vraiment... Là, on était en plein quartier espagnol.
Je suis surprise de l'énergie de cette dame proche de ses 90 ans. Elle ne semble pas se fatiguer dans notre longue balade. Je sens une certaine insouciance chez elle, le plaisir de retrouver des lieux qui lui ont été chers.
Pardon ?
Vous marchez très bien.
Oui, pour l'instant encore, oui. Je marche trop vite ?
Vous marchez plus vite que moi, presque.
C'est vrai ?
Ah oui.
Mais je vais ralentir un peu. Voilà. Oh ben c'est génial, il y a du monde, je vais pouvoir leur dire que j'ai habité là, moi.
Ah ouais.
Voilà, alors c'est ici, c'est cette maison, là, le 24 rue Brémontier. Et je... Monsieur, excusez-moi si on s'arrête et qu'on vous regarde et que je suis intéressée par votre maison parce que j'ai habité là.
C'est vrai ?
Oui, j'ai habité là, j'avais 6 ans, quand j'avais 6 ans. Donc c'est une maison qui est... toujours resté cher à mon cœur. Voilà, vous permettez que je rentre ? Alors, tout ça, c'était pareil, c'était un grand entrepôt. Et ici, au fond, il y avait un four où mon oncle, le frère de ma grand-mère, faisait cuire des betteraves rouges. Lui, il les faisait cuire, il allait chez des producteurs, il achetait les betteraves rouges, il les faisait cuire là, et il les vendait au marché des Capucins. Et il avait un banc au marché des Capucins où il vendait ses betteraves rouges. Et quand ils sont arrivés d'Espagne, les betteraves rouges cuites, en France, ça se mangeait pas tellement. Et lui a développé cette espèce de truc. Et il a acheté cette maison. Il a déjà commencé son petit négoce ailleurs. En betterave rouge, ce qui lui a permis de gagner quand même de l'argent. Il avait quand même pu acheter cette maison, et la maison était très jolie en haut. C'est une belle maison avec le balcon, là, c'était super.
Comme beaucoup de personnes âgées, la grand-mère de Josefa n'avait pas réussi à apprendre le français. Elle était donc à l'est dans ces quartiers où l'on entendait l'espagnol dans tous les coins et dans une grande partie des commerces. Lors de mes recherches, j'ai même échangé avec des Français qui ont grandi dans la petite Espagne des années 50. L'historien Bernard Lavallée, d'ailleurs, avait grandi aussi dans ces quartiers. Il est devenu prof d'histoire du monde hispanique. On peut dire que l'influence de cette période a été décisive dans sa vie. La petite Espagne était également un centre culturel en plein air. Les souvenirs du quartier, se mélange avec des moments de vie quand on revient cours de la Marne et que je demande à Josefa des précisions sur l'ancienne salle de spectacle Sol y Sombra.
Josefa, j'ai lu qu'il y avait un endroit très connu,
oui.
Notamment dans les années 50, à la cour de la Marne, qui s'appelait El Sol y Sombra.
Ah oui,
de ces spectacles,
oui.
Tout.
Sol y Sombra. Alors, Sol y Sombra, c'était par là.
Tout près de la place de la Victoire.
C'était tout près de la place de la Victoire.
Et
oui,
vous
oui.
veniez
Alors moi, je suis venue voir Carmen Amaya à Sol y Sombra avec mon frère. Ça a été ma première sortie de jeune fille.
Super.
Voilà.
Vous aviez quel âge?
J'étais jeune, j'avais peut-être... 16-17 ans.
Oui.
Et ça m'avait marqué parce que ça avait été un très beau spectacle,
oui.
Très espagnol en plus. Et c'est la première fois où j'ai mis des bas nylons.
Des bas nylons, qu'est-ce que c'est ça?
Las medias de las medias.
Ah, ok. Oui, je comprends.
Avec que l'on attachait avec des jarretières.
Ok.
Et qu'on attachait comme ça. On portait un corset.
Oui.
Et sur le corset, il y avait. Et on mettait des.
Des
porte-jartelles. Et c'est la première fois où j'ai mis des bas.
Ah.
Parce que j'étais jeune encore. Je devais avoir, 16 ans comme ça. Et je ne portais que des. Soquettes ou des chaussettes.
Oui.
Et là, pour aller quand même au spectacle de Carmen Amaya, j'ai voulu faire un peu la fantaisie et j'ai acheté mes premiers bas nylons. Et alors, j'ai trouvé ça très, très inconfortable parce que j'ai trouvé qu'on n'était pas à l'aise du tout et j'ai mis très longtemps après à remettre des bas. Donc, c'est un souvenir.
Sol y Sombra.
Ah, vous. Ah, mais c'était que des Espagnols.
À Saint-Michel, au Capu, dans la rue Kléber, la nuit, on sortait les chaises devant les portes et on parlait fort. On dînait tard et on vivait à l'espagnol. J'adore cette phrase de François Garcia, issu de ces familles d'émigrants qu'il écrit dans son roman « Jour des marchés ». Enfin, on m'aurait demandé un passeport pour franchir la grosse cloche, je n'aurais pas été plus surpris que ça. De l'autre côté du marché des Capucins, il y a aujourd'hui la bibliothèque du même nom. Ici, comme dans d'autres lieux culturels du quartier, mais aussi à Fleurac, Sénon ou Lormont, les groupes Cultura Popular mettaient en scène ces pièces de théâtre. Esmeralda Laborda Travé, de l'association Guerrilleros, se souvient de ces événements organisés par son père et qui rassemblaient la communauté espagnole de l'après-guerre.
Ils organisaient des conférences, ils organisaient des festivals avec des groupes de danse, des groupes de chant. C'était assez varié. Et également des pièces de théâtre sur lesquelles... pièces de théâtre qui ont pris une très grande importance parce que c'était aussi un moyen de fédérer toute cette communauté. Oui, j'oubliais de dire que également quand à la belle saison, ils faisaient des excursions en autobus, donc ils partaient à 3 4 5 6 autobus. Et ils allaient bien sur du côté de la plage ou du côté des lacs ou à la campagne, enfin tous les Espagnols avec leur pique-nique. Bon voilà, ils chantaient dans les bus. Ils étaient encore très enthousiastes. Ils chantaient les chansons révolutionnaires dans les bus. C'est comme ça aussi que la mémoire s'est transmise à leurs enfants, puisque nous aussi on les accompagnait bien sûr.
La plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo.
En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado.
Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor.
Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos.
Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor.
Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor.
Esmeralda a gardé toutes les affiches que ses parents avaient créées au cours des années. Las hormigas rojas, amor de Don Perimplín con Belisa en su jardín. Le théâtre avait été dans l'Espagne du début du XXe siècle un outil non seulement de divertissement, mais aussi d'éducation et même idéologique. Une façon de réveiller la conscience de ceux qui ne savaient pas lire. Les pères d'Esmeralda avaient pour habitude de répéter une phrase qui parle du chemin ouvert par les missions pédagogiques des années 30 et les intellectuels qui l'avaient mis en marche. A la libertad por el camino de la cultura. De façon plus institutionnelle, l'hispaniste Noël Salomon crée en 1962 à l'Université de Bordeaux les théâtres d'études ibériques et ibéro-américaines, avec la participation de Manuel Martínez Azaña, écrivain et neveu de l'homme politique Manuel Azaña, dont on a parlé dans ces podcasts. Mais la culture n'était pas la seule raison des retrouvailles. Autour du cours Victor Hugo, plusieurs réfugiés avaient installé les sièges de leurs associations et partis politiques, comme me raconte Luis Diez, voisin de Bacalan. Il venait les dimanches avec son père retrouver d'autres réfugiés espagnols.
Alors leur vie à Bordeaux, il y avait la vie, et puis elle avait la vie le dimanche. Le dimanche, on allait cours Victor Hugo, où il y avait tous les Espagnols, c'était le quartier des Espagnols. Nous, on était sur le Buscado, on était un peu... Et ils vendaient Mundo Obrero, le journal, et c'était à chaque fois, des fois j'allais avec lui, c'était toujours les explications, même des fois ça tapait, entre les communistes, les anarchistes, les socialistes, et les fascistes qui venaient pour fouiller le bazar. Alors, ils s'esquintaient entre fascistes, enfin, communistes et anarchistes, tout ça, mais dès qu'il y avait les fascistes qui arrivaient, là, c'était Frente Unido. Et ça, ben, les flics intervenaient, hein, parce que des fois, c'était lourd. Hein. Souvent, il y avait des réunions politiques. Et je voyais ces grands gaillards asturiens, catalans, des Andalous. Ma mère servait le café, cognac, anis qu'on arrivait à se procurer. Et ils disaient tous, bon, allez, le prochain à la Gran Vía. Le prochain, on le boit à Donostia.
La plupart de ces réfugiés ont tenu leur parole. N'est pas remettre en pied en Espagne tant que Franco serait en vie. Dans les années 50, la communauté internationale, emmenée par les États-Unis, commence à accepter le régime. La peur de Franco de se faire renverser par les alliés s'éteint. Et dans les années 60, les pays font le pari du tourisme. Les plages se remplissent d'Américains et d'Européens. Cette image lissée facilite pour certains exilés un retour sans crainte. Et ils s'en profitent pour passer de temps en temps voir leur famille. 40 ans après, ils sont retrouvés en tout autre pays, qui avait avancé, mais où certaines habitudes étaient bien restées. On ne parle pas des politiques, on ne se signale pas, on ne s'engage pas. Les vaincus restés en Espagne ont dû apprendre à baisser la tête. Franco meurt le 20 novembre 1975, paisiblement dans son lit. Madeleine Casado est fille d'un réfugié espagnol.
Je vais le plus souvent possible dans son village natal. Maintenant, tous les anciens sont partis. Ceux qui pouvaient me raconter ce qu'ils avaient vécu dans le village. Et cette famille-là considérait un peu mon père comme chanceux parce qu'il n'était pas resté sur place. Il n'avait pas vécu tout ça. Et donc, quand il revenait en Espagne, ben on chargeait la voiture de tout ce qu'on pouvait offrir modestement, mais offrir quoi, c'est voilà, il le considérait comme un chanceux, et mon père se mettait en colère en disant mais pourquoi vous réagissez pas, pourquoi vous vous levez pas, parce que lui je pense qu'il réalisait pas non plus la chape de plomb qui s'était installée sur l'Espagne en fait. Hein.
À cette époque, souvent on refusait d'apprendre l'espagnol aux enfants, on cherchait à les protéger et à ce qu'ils s'intègrent. À empêcher qu'en cours, on les appelle les espingouins ou les espingous, ou qu'on les méprise en tant qu'enfants de rouge, ce qui a été fréquent dans les années 50, dans les contextes de la guerre froide. Il fallait avant tout être exemplaire. Daniel Rossin, fille d'un réfugié espagnol, a été vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme en Gironde.
Aucune conscience d'avoir un père vraiment réfugié, enfin, un père d'origine espagnole. J'ai été élevée en petite française. C'est mon père qui a appris le français, qui s'est intégré. On ne fréquentait pas d'espagnol en dehors de mes oncles et tantes. Au début, quand j'étais toute petite, ma grand-mère était venue me garder et elle aussitôt a pris des contacts dans Bordeaux. Enfin, en me gardant, elle rencontrait des dames qui étaient d'origine aussi espagnole, etc. Mais après, mon père, non. Il a adopté les amis de ma mère qui étaient français. À partir d'un certain moment, il a pu recommencer à écrire à ses oncles qui étaient restés en Espagne, en Castille. Mais en dehors de ça, rien. Et pour lui, il n'était évidemment pas question de mettre les pieds en Espagne. Mes parents étaient très, très attentifs à notre réussite, à mon frère et à moi. De toute façon, les profs avaient toujours raison. Nous, nous avions toujours tort. Et il fallait toujours ramener de bons résultats. On n'avait pas intérêt à ramener de mauvais résultats. Il fallait travailler. Et puis finalement, c'est devenu naturel. Il n'avait plus besoin de nous le dire, mais bon. Mon père... Enfin, la Ligue des droits de l'homme est mon métier. Mon père m'a donné le goût de l'histoire de la prime enfance. Quand j'étais toute petite, il me racontait des épisodes de l'histoire d'Espagne. J'ai entendu parler d'Isabelle la catholique, j'ai entendu parler de Charles Quint. Enfin, il m'a donné le goût de l'histoire. Il m'a donné le goût de l'histoire, ça c'est certain. Et puis, mon père était un homme qui avait des valeurs. Avec beaucoup de conscience, c'était un homme honnête et il m'a inculqué ses valeurs de le respect de l'autre, le respect de la liberté, le respect de la laïcité, l'humanité qu'on doit à l'autre. Et puis aussi, bien entendu, sur un plan plus politique, l'attachement à la démocratie, à la République et... Il m'a bien parlé de ce que pouvait être une dictature et de ce que cela engendrait, ça c'est sûr.
À 1955, on dénombrait 30 000 Espagnols à Bordeaux. Dans les années 60, ils étaient 60 000. Ils ne sont plus que 8 000 aujourd'hui. Où sont passés les autres? Eh bien, ils se sont intégrés. Leurs enfants et petits-enfants sont déjà français. Aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose de cette ancienne petite Espagne, à l'exception du maison La Venta, place Saint-Michel. Repris depuis les années 2000 par Luis Velayos, fils d'Espagnol arrivé avec les vagues d'émigration économique des années 60, il tient à diffuser les goûts de la nourriture espagnole et les tapas. Avec Josefa, c'est ici qu'on décide de finir notre balade. On commande un peu de jambon, un peu de queso manchego et boquerones en vinagre. La première fois que je me suis baladée dans ces quartiers, j'ai remarqué la présence de ces restaurants. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué davantage. Quelques rues plus loin, je tombe sur la rue Giner de los Ríos. Tiens, mais qu'est-ce qu'il fait là, Giner de los Ríos? Giner de los Ríos, en espagnol. Il est passé par Bordeaux? Il est né dans ma ville, d'ailleurs, à Ronda, en 1839. Philosophe, pédagogue, écrivain... Il a fondé en 1876 l'Institution Libre d'Enseignement. Il a été décisif dans l'intégration en Espagne des idéaux libéraux des Lumières, et en particulier du radicalisme laïque français qui seront en grande partie repris par les intellectuels républicains. Ces idéaux sur l'égalité des femmes, la libre éducation dans un pays dominé par l'Église catholique ont donné forme à l'école où se sont formés, parmi d'autres, Manuel Azaña, Federico García Lorca, Salvador Dalí, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, María Zambrano, Luis Buñuel, María Moliner, Unamuno, Ortega y Gasset, et je pourrais continuer à citer des grands créateurs espagnols du XXe siècle. Je suis fière de retrouver son nom à quelques pas de mon appartement. Je me sens d'un coup à ma place, dans cette ville qui n'est pas la mienne, mais que, quand beaucoup d'Espagnols avant moi, je chéris et où je tiens à faire petit à petit, mon chez-moi.
Merci Maria Diaz-Valderrama. C'est la fin de cet épisode de podcasting, L'actu dans la poche. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, production Agathe Hernier et Gabriel Taïeb. Illustration Emma Gillet. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.